שיהיה זמי השם עליכם תחיו, לאורך חיים טובים ושנים נעימים. איזנו בשם אדוני עושה שם בארץ. ופורסיבונו את רצית שיעולה מגילת עשר. נוסום אריבה או שפיטר נף. Donc nous allons conclure notre lecture de la Megillah et l'apparition du miracle de manière certaine. Donc le chapitre commence au Bishneim Asa Hodesh ou Hodesh Adar. Et du 12e mois, qui est le mois de Adar, Bishosha Asarbo, le 13e de ce mois, Asherigia Devaramela Vidatola Asot, c'est le moment où l'exécution de l'ordre royal et de son édit devait arriver à échéance. Le jour même, les ennemis des Juifs avaient espéré prendre le dessus. Et c'est le contraire qui se poursuivit, qui se réalisa. Le texte précise la date du jour, ce qui est a priori superflu. Nous savons bien de quel jour il s'agit. En fait, il n'est pas d'habitude des rois d'envoyer des missives à chacune des villes du royaume. Et encore moins à chacun des petits villages. Les ordres royaux sont envoyés uniquement aux chefs des provinces, aux préfets, aux gouverneurs qui doivent après diffuser et répercuter les informations dans les moindres coins du royaume. Il peut donc se trouver des villages reculés où ces informations ne parviennent pas, de sorte que les ennemis s'étaient préparés à attaquer les Juifs, ne sachant pas que les nouvelles missives avaient été envoyées. La seule chose qui était connue de tous était le nouveau statut de Mordechai. Bien qu'ils fussent dans l'ignorance du renversement total de la situation, les Juifs se rassemblèrent pour se défendre. Et là, tous les ennemis furent pris de terreur. Le texte décrit ici l'ampleur du miracle. Tous les puissants du royaume vont venir prêter main forte au Bnei Israël. Le verset dit que Mordechai est grand dans la maison du roi, qui gadol Mordechai bebet amelech. Et ensuite, il rajoute que la personne de Mordechai a l'air en grandissant, qui a l'air avec Gadel. Que signifie cette répétition? De plus, ici, il n'est pas précisé, comme il va être dit à la fin de la Megillah, que Mordechai, il est Mishne la mer, il est vice-roi. Comme cela sera mentionné plus tard, le roi possède de nombreux ministres. Nous devons comprendre qu'il y a ici quelque chose de particulier. Le roi possède de nombreux ministres, des hauts fonctionnaires, des conseillers qui sont préposés au bon fonctionnement du royaume. Ces ministres sont connus de tous les citoyens. Leur renommée est d'importance. Ça veut dire de tel pourquoi? Parce que sinon, les gens ne vont pas appliquer. Et pour qu'on applique la parole d'un ministre, il faut que ce ministre soit connu, qu'on sache que c'est un homme important, qu'il est lié au roi, etc. Pour que les ordres qu'ils transmettent soient accomplis partout. Cependant, il y a d'autres ministres qui sont préposés à la maison du roi elle-même, qui sont des conseillers du roi proches de lui. Ils dirigent le palais royal, et de par leur fonction, ils ne sont pas connus de tous les fonctionnaires de l'Empire, à plus forte raison de l'ensemble du peuple. Mordechai est de cela. Donc, son influence aurait dû être limitée à l'enceinte du palais. Et là, étonnamment, l'ensemble des préfets, des gouverneurs, des fonctionnaires et du peuple ont subitement une terrible crainte de la personne de Mordechai. En effet, sa renommée traverse tout le territoire de l'immense empire et se répand rapidement. Cette fulgurante ascension et la diffusion de sa nouvelle position amplifie de manière remarquable la puissance du miracle. Le passage continue. Vayakou ayodim bechol oyvehem. Ils ont frappé tous leurs ennemis. Makat herev ve'ereg. Ils les ont frappés par le glaive en les tuant. Et après, il a marqué, Ve'avdam, et ils les ont détruits, disparus, perdus, Besonehem Kirsanam. Ils les traitèrent selon leur gré. Ou Beshushan Abira, Hargo Ayoudim, Ve'abet Hamesh Meotish. Et à Shushan, dans la ville, les Juifs ont tué, et ont fait disparaître, ont détruit, exterminé, 500 hommes. Alors ici, il est cité, Ve'et Parshadnata, Ve'et Dalfon, les 10 enfants de Haman. Aseret bene Aman ben Amedata Agagi. Les 10 enfants de Aman, Amedata, Sorera, Yudim, Aragou, ils les ont tués. Ou bah bizarre. Mais non, le butin, ils n'ont pas pris le butin. Ils n'ont pas mis la main sur le butin. Ils n'ont pas voulu prendre le butin. Alors ici, il s'agit d'analyser de manière pointilleuse ce qui se passe. Quand il s'agit des ennemis qui n'ont pas d'importance, il est dit, Stam, des goyim, des gens comme ça qui viennent, la populace qui viennent pour tuer les juifs. Alors, il est dit, ils les frappèrent par le glaive, les tuant et les détruisant. Ça veut dire quoi, détruisant? Ce qui signifie que le corps de ses ennemis n'était plus reconnaissable. Il leur coupe la tête, par exemple. Alors qu'à Suse, il y a marqué, ou Beshushan ba argoa yodim, hamesh meotish. Ou Beshushan abira argoa yodim, ve abed hamesh meotish. Que ça signifie? Ils ont tué 500 hommes, mais il n'est pas dit qu'ils les ont détruits. Ce qui signifie que ces hommes étaient des personnages d'importance, qu'ils possédaient des fonctions dans le royaume et qu'ils étaient craints des simples citoyens. C'est donc volontairement qu'on les mit à mort, mais on laissa les corps entiers de manière qu'ils puissent être reconnus. Alors s'ils sont reconnus, donc ça, la frayeur va, la terreur va s'instaurer. Nombreux les hommes de pouvoir qui sont restés en retrait de ces événements n'osant pas prendre parti. Ils se sont dit, attendons de voir la tournure que prendront les événements, et seulement alors nous associerons aux vainqueurs. En voyant que ces hommes d'importance ont été tués, que leur position ne les a pas sauvés, tous comprirent que la volonté du roi était clairement en faveur des Juifs. Les 10 fils d'Aman sont cités par leur nom, et seulement ensuite il est précisé le nom de leur père. Ce sont les détracteurs qui accusèrent les Juifs qui reconstruisaient le temple de vouloir se rebeller contre l'autorité du roi. Et suite à cette intervention, la construction a été interrompue. Les noms des 10 enfants d'Aman sont écrits séparément, chacun sur une ligne, chacun est précédé du mot Ve'et, et aussi. En général, ce mot Ve'et, il ne sert à rien, il vient juste ajouter. On aurait pu citer les noms sans marquer Ve'et. Et dans le Talmud, Kol itim sheba Torah les ribouillés. Dans la Torah, chaque fois qu'on dit, on utilise le terme et, ve'et, ça vient ajouter quelque chose. En effet, Aman et ses fils forment l'ensemble de la structure de la Tum'a, la Klipa. Cette composition des forces négatives s'est développée sans aucune retenue pendant cette période, pendant le temps où Akadosh Baruch Hu était en sommeil, où la Providence était en sommeil, où les Bnei Israël se sont aussi mis en sommeil, où c'était la période de Esther Panim, la face cachée. Alors la Tum'a s'est construite, un pouvoir terrible. Elle s'est développée, amplifiée sans aucune retenue. Elle prend de l'ampleur et de l'intensité, cette Tum'a. Il semble que rien ne puisse lui résister. Son influence est certaine à tous les niveaux de l'État. Et là, subitement, elle disparaît totalement pour se réduire à sa plus simple expression. Esther demandera au roi de pouvoir les pendre sur la même potence que leur père. En effet, Aman a été pendu le 16 Nissan. Son corps est resté suspendu pendant 11 mois. Et à présent, ses fils vont le rejoindre sur la potence. Les 10 noms de ces individus, ainsi que les mots Ve'et, font référence aux 10 formes que prend la Avodazara et le Kohatuma à travers ces différents noms. Elles changent d'aspect, c'est-à-dire qu'elles changent d'aspect, de forme, selon les circonstances et les situations. La tentation, elle pénètre dans tout, elle est flexible, elle est malléable, elle s'adapte aux situations. Il y a 54 lettres dans les 10 noms des enfants d'Aman. Autant que le nom de Aman est mentionné dans la Megillah. C'est-à-dire que le nom d'Aman est mentionné 54 fois dans la Megillah, ce qui fait référence au Din. Dans certaines mentions de Al-Anissim, selon le Gaon de Vilna, il y a aussi 54 mots. Tout cela agit dans le sens de la destruction des puissances du mal, qui subit le changement sans aucune miséricorde. Dan, 54, Dan, le Tout-Puissant, applique sa justice sur les méchants dans toute sa rigueur. C'est le mot Dan, c'est ça la destruction de la structure de la Touma. Cependant, la différence avec la Shira, Shira Tayam, nos maîtres comparent l'écriture des dix noms des enfants d'Aman, qui sont chacun écrits sur une ligne, avec la structure de la Shira Tayam, Az Yashir Moshe. Alors, la différence avec la Shira, la destruction des forces d'Amalek n'est pas totale. En effet, lors de la traversée de la mer, il est dit, « Vous saurez aujourd'hui, vous qui avez vu le châtiment qu'il a accompli sur l'Égypte contre Pharaon et son armée, à ses chevaux et à ses cavaliers, sur lesquels il a fait déferler les eaux de la mer. Il les a anéantis jusqu'à ce jour. » Ce passage-là, il est marqué dans Parashat Devarim, dans le livre de Devarim. C'est Moshe Rabbeinu, Ekev, dans Parashat Ekev. C'est Moshe Rabbeinu qui dit ça, jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire quoi jusqu'à aujourd'hui? Cette dépression jusqu'à ce jour fait référence à la destruction totale des forces de l'Égypte, puissance spirituelle comme physique. L'anéantissement total qui fait que jamais elle ne se renouvellera, ne serait-ce qu'un instant, un semblant de sa puissance d'antan. Cette différence se traduit par la forme de l'écriture, de la Shira, qui possède une parfaite stabilité. Alors qu'ici, les 10 noms d'Aman, les enfants d'Aman, s'écrivent les uns sur les autres. Nous espérons que cette écriture soit suffisante afin que les enfants d'Aman ne puissent jamais se relever. Mais est-ce que cela se réalisera dans l'histoire? Comme lors de la guerre contre Amalek, la victoire ne fut pas totale. En effet, il est dit, Yoshua transperça Amalek et son peuple à la pointe du glaive. Vayahalosh et Yoshua. Et Amalek, vetamolefiharem. Le mot vayahalosh pose problème. Que signifie-t-il? Rachid dit qu'il n'a pas tué tout le monde. Halas, ça veut dire qu'il a affaibli. Il a affaibli Amalek. Rachid dit, il a tué les forts, il a laissé les faibles. Parce qu'en effet, on ne peut pas tuer Amalek, parce que tant que le Mashiach n'est pas venu, Amalek est présent. Il y a Tosafot disent à ce sujet qu'en vérité, quand Amalek est venu combattre Israël, Amalek est un grand magicien. Il sait lire dans les as. Or, qui a-t-il choisi? Il a vu dans les as, il a choisi des combattants pour lesquels il était sûr qu'il ne mourrait pas cette année-là. Donc, ils étaient sûrs de la victoire. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, « Behar lanu anashim, va choisir des hommes. » C'est-à-dire quoi, choisir des hommes? Choisis des hommes comme Amalek les a choisis. Toi aussi, choisis des hommes que tu es sûr qu'ils ne mourront pas dans l'année. « Vetse ilahem ba Amalek » et va sortir combattre Amalek. De telle sorte qu'il n'y a pas eu de mort dans cette guerre-là. Il y a eu seulement des victimes, des blessures, des affaiblissements. C'est ça le sens. « Vayahalosh Yoshua et Amalek vet Amo lefi harev » et tant que le Mashiach n'est pas venu, alors nous sommes dans la guerre contre Amalek. Amalek doit être affaibli. Bayom Maou, et en ce jour-là, Bah Misbara Rogim Beshushan Abira Lifna Meler, le nombre des morts à Shushan est arrivé. Voyons mes ramères, l'Esther Amaka, le roi dit à Esther, Beshushan Argoyodim, à Shushan, ils ont tué Hamesh Meotish. Et aussi les dix enfants d'Aman. Qu'ont-ils fait dans les autres pays, dans les autres provinces? Et qu'est-ce que tu demandes encore et que je puisse te l'accorder? Il n'était pas nécessaire de préciser le jour même. Mais cela signifie que bien avant le coucher du soleil, les combats cessèrent. Parce qu'il est marqué, on est le 14, on est le 13. Donc c'est le 13. Donc ils ont arrêté de tuer à Shushan au milieu de l'après-midi. Pour montrer que la vengeance d'Israël se fait avec retenue. En effet, ils auraient pu poursuivre leurs ennemis jusqu'à la nuit, sans leur laisser le moindre répit ou l'espoir de s'en tirer. Mais ils ne le font pas, ce qui permettra d'obtenir que le lendemain aussi ils puissent combattre comme aujourd'hui, ainsi que le demandera Esther. Le roi comprend que c'est uniquement dans la capitale que les combats cessent. Avant la fin du jour, il sait que cela est dû à sa présence dans la ville, parce que lui il est là, et que malgré cela, ils ont pu éliminer 500 hommes d'importance. Il se dit, parce qu'on parle Hamesh Meot Ish, chaque fois qu'on dit Ish, c'est quelqu'un de très important. Il se dit alors que dans le reste de l'Empire, ils ont dû laisser libre cours à la vengeance sans aucune retenue. C'est pour cela qu'il dit à la reine, « As-tu encore une demande à présenter ?» Il dit, si toi tu as le bon plaisir du roi, alors qu'il soit permis aux Juifs de faire demain comme aujourd'hui. Esther demande à Suse le jour suivant, c'est-à-dire que le 14 Adar soit lui aussi consacré à la guerre contre les ennemis comme aujourd'hui. Nous avons déjà, comme nous l'avons déjà souligné, la guerre contre Amès, c'est-à-dire sur deux plans. Aujourd'hui, le jour qu'Amalek a choisi pour venir nous combattre, le 13 Adar, ainsi que l'a fixé Aman par son tirage au sort. Et un jour supplémentaire, demain, comme dit Moshe à Yoshua, Behar lanu anashim vetseilahem ba Amalek, va, choisis-nous des hommes pour combattre Amalek. Demain, Mahar, Aninissa Valgoshagiva, demain, je me tiendrai sur la colline. Donc la guerre, elle a deux dimensions, elle a aujourd'hui et demain. Que signifie demain? Amalek s'attaque à Israël avec les armes d'aujourd'hui, comme le fait Aman, à travers le sort. Il utilise les règles et les concepts de ce monde, le mazal, la nature, la rationalité. Il emprunte les lois de la conduite naturelle de ce monde. C'est le sens du temps présent. En effet, les 6 jours de la création font référence aux règles physiques immuables qui ont été fixées lors de la création du monde par le nom de Dieu Elohim qui a valeur numérique de Hateva, la nature. Cependant, Israël utilise une autre dimension dans cette guerre, celle du lendemain, Maha, qui renvoie à la notion d'éternité, la conduite miraculeuse au-dessus des lois de la nature, qui n'ont pas de prise sur nous. Cette conduite qui apparaît à la sortie d'Égypte, et en particulier lors de la 10e plaie, où en un instant, le peuple d'Israël se trouve totalement dégagé des liens qui le liaient à l'Égypte. C'est le nom de Dieu, Yod, Ke, Vav, Ke, qui apparaît. Cette dimension d'éternité qui est introduite dans cette guerre, par le rajout de ce jour supplémentaire, ne se fait que dans la capitale. Suse possède une muraille qui délimite ses contours, tout comme la lune, le jour de son apogée, où ses contours sont parfaitement limités et délimités. Elle brille alors tous ses feux. De plus, il est à noter cette comparaison entre la muraille d'une ville et la lune, la pleine lune. Le Maharal fait cette comparaison. De plus, il est à noter que la reine Esther fixera le lendemain des jours de combat comme jour de repos. Il s'agit pour les uns du 14 Adar et pour la capitale du 15. Ce concept de repos apparaît aussi lors de la guerre contre Amalek. Comme il est dit, ce sera alors « Veya be'ania Hashem Elohecha » quand Hachem te laissera tranquille, autour de toi, il donnera le repos de tous tes ennemis autour, aux alentours. Alors tu effaceras le souvenir d'Amalek. Ce repos fait allusion au fait de se poser. Enfin, nous arrivons à nous poser. Quand nous sommes définitivement débarrassés des charges, des oppressions qui font notre quotidien. Là, enfin, on a le loisir véritablement de nous reposer d'un repos parfait et entier, sans plus de crainte ni d'angoisse du lendemain. C'est de ce repos qui nous rappelle celui de Shabbat, comme si nous étions déjà arrivés à destination, que nous ayons des forces pour éliminer totalement Amalek. Ou Shari Yodi, Asher Bemidot HaMelech Aaron, Nikalo, Ouver Amdo Alafcha. Donc les autres juifs, ils se sont levés le 13 Adar, et après ils ont fait le jour du repos le 14. Et là encore, il y a marqué qu'ils ont marqué, Vayechtov Mordechai Dadbarimaele. Et Mordechai a écrit les événements et expédié à l'élève à tous les juifs proches ou éloignés des provinces du roi. L'intention profonde de la fixation du 15 Adar comme jour de repos pour les juifs de Suse est de rattacher le pays d'Israël à la fête de ce jour. En ce temps-là, la terre d'Israël est désertique. Les murailles de Jérusalem sont détruites. La population qui habite le pays est très peu nombreuse. Ce jour supplémentaire accordé aux Juifs de Suse va permettre de relier le pays d'Israël à la fête du 15 Adar. Ce jour, le 15, est l'essentiel de la fête. En effet, toutes les fêtes comme Pessah, Sukkot, le 15 Av ou encore le 15 Shvat sont liées à la pleine lune. D'ailleurs, c'est une des questions, des interrogations de Moshe, une des difficultés que Moshe a eues. Quand Kajouro lui dit de fixer le mois, il lui monte un croissant de lune. Il dit, Moshe ne comprend pas. Il dit, si moi j'amène la Géoula, alors on devrait faire la pleine lune. C'est le moment où la lune, faisant référence à la royauté d'Israël, à son apogée. Pourquoi un croissant de lune? Le croissant de lune sous-entend que le croissant va augmenter, atteindre la partie ascendante. Mais après ça, il y a une partie où il y a une décadence, où il y a une partie où il va se diminuer. Et Moshe demande, Hachem, mais c'est pas normal, si c'est la Géoula, il faut que tu me montes le Rosh Chodesh au 15, à la pleine lune, ou bien que le premier mois, le jour du mois, déjà il y ait la pleine lune. Comme il est dit à la fin des temps, que la lune brillera le matin comme le soleil au zénith. Donc c'est Vaya, Ora Levana Ki Rahama. Et c'est ça, alors c'est pour ça que nous fixons la fête le 15 Adar. Et ce 15 du mois, ça renvoie à la délivrance finale qui aura lieu pour la terre d'Israël. C'est à travers le jour de Sus, de Purim, de Shushan, que nos maîtres établissent l'honneur et la gloire de la terre d'Israël. Voir le Ran au début de Masechet Megillah, page Aleph sur le Rif. Bien que l'ensemble de l'Empire, c'est le 14 qui est fixé comme jour de fête, cela n'est qu'une préparation à la véritable fête du 15. Il en va de même de nos jours. Le 15 Adar, qui n'est fêté qu'à Jérusalem, possède une dimension particulière, celle de l'éternité. L'intention de Mordechai et d'Esther était que ces jours soient des jours chômés, où il est interdit d'effectuer des travaux comme tous les Yom Tov. Mais ce point n'est pas accepté par le peuple, bien qu'il soit de coutume de ne pas travailler le jour de Purim. Lors du don de la Torah, alors on va comprendre quelle était l'intention de Mordechai et Esther et pourquoi les Juifs l'ont refusé. Lors du don de la Torah, Hachem force le peuple à l'accepter. Parce qu'on a marqué, il a renversé la montagne sur eux. Toutefois, à l'époque de Purim, ils acceptèrent Kimou Verkriblo Alehem. Ils l'ont accepté de bon gré avec joie et ferveur. Pour tous les jours de fête, il est dit que nous devons consacrer la moitié pour le service divin et l'autre moitié pour notre bon plaisir. Comme il est dit, la moitié pour vous, moitié pour Dieu. C'est pour cela qu'il est interdit de travailler les jours de fête, afin de se consacrer à l'étude et à la prière, à la méditation, à la compréhension profonde de notre attachement à Hachem. Nous devons aussi consacrer l'autre moitié de la journée à nous réjouir autour d'un bon repas de fête, de boire, d'exprimer notre bonheur. Cela est valable aussi pour la fête de Shavuot. La Gemara dit, le kule alma modu que atzeret nami ba'elachem. Que même, tout le monde est d'accord de dire que Shavuot aussi, il faut faire la moitié pour vous. Vous aussi, il faut manger, boire et se réjouir. Cependant, le repas de Shavuot traduit la joie. Alors pourquoi? Alors pourquoi j'aurais pu penser que non? Parce que le jour de Shavuot, c'est un jour consacré à Dieu. Tu étudies la Torah. Quand est-ce que tu auras la récompense et le plaisir? Les hâtis d'abord, alors pas en ce moment. Alors pourquoi on fait des bons repas? Alors la Gemara dit, le sens du repas, c'est comme dit la Gemara, Rav Yosef, il faisait en ce jour un banquet, un festin particulier, parce qu'il dit, s'il n'y avait pas ce jour, qu'est-ce que je serais? Un simple, un individu. Mais là, puisqu'il y a ce jour, je suis un chacham qui est, Dieu m'a donné la possibilité, Ashrenu v'ashachelkenu, qui nous a mis, il nous donnait la Torah, que nous puissions nous y investir et qu'avoir les connaissances et nous délecter du savoir de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on fait le repas. Le repas de Shavuot traduit la joie, l'enthousiasme d'avoir eu le mérite de recevoir la Torah. En voulant faire de Purim un jour chômé, Mordechai et Esther voulaient souligner le fait qu'à présent, le peuple accepte la Torah de son plein gré, avec la joie et entrain, qu'il puisse se consacrer à ce jour au service divin sans aucun autre souci. Mais le peuple ne voit pas cela d'un bon œil, car une telle chose sous-entend que pendant 1000 ans, ils n'ont accepté la Torah uniquement que par obligation, et parce qu'elle leur a été imposée. Et là, pour Purim, il y a une nouvelle acceptation de la Torah, qui n'a pas de lien avec celle de Shavuot. Ils disent à Mordechai, notre acceptation de la Torah est liée à Shavuot. Ce n'est pas un acte indépendant qui viendrait annuler celui du départ. La prise de conscience d'Israël, de s'investir dans l'étude, dans l'application des mitzvot, avec joie, amour, enthousiasme et ferveur, et l'aboutissement d'un processus de maturité. Cette progression n'est possible que parce qu'au départ, la Torah a été imposée. Nos maîtres nous disent bien, les olam, yasso, kadam, batorob, mitzvot, afelushel ishma. Toujours un homme doit, de tout temps, tu dois te consacrer à la Torah et aux mitzvot, même si tu le fais par intérêt ou par obligation. Car plus tard, tu parviendras à dépasser ce stade et le faire appliquer la Torah de manière totalement désintéressée, avec passion et enthousiasme. C'est pour cela qu'il n'est pas convenable que le jour de Purim soit officiellement chômé. Mais pour marquer cette étape, l'habitude est de ne pas travailler. Les Juifs acceptèrent la coutume. En coutume, ce qu'ils avaient commencé à faire. Et ce que Mordechai avait recommandé par écrit. Aman a tiré au sort, donc après il est dit que ce jour-là, qui Alken, Karo, Layamima et les Furim. C'est pour cela que ces jours-là ont été appelés Furim. Le P n'a pas de dagesh, donc on lit Furim. Aman a tiré au sort pour, c'est tiré au sort. Pourquoi ces jours sont-ils appelés Purim? qui est un pluriel, ou Fourim. Il n'est pas non plus précisé qui a donné ce nom à la fête. Aman n'est pas le premier à avoir tiré le sort contre Israël. Quand Amalek vient combattre Israël, il tire aussi le sort, comme nous l'avons dit précédemment. Il choisit des hommes qui ne doivent pas mourir cette année. C'est pour cela que Moshe ordonne à Yoshua choisir des hommes pour combattre, ce que nous avons dit plus haut. Il lui demande de les choisir comme ceux d'Amalek. Donc il y a deux tirages au sort. Et tous ces hommes que Moshe choisit, ils sont nés en Hadar 2, le mois où le Mazal, qui n'a pas de Mazal, puisqu'il y a 12 signes astrologiques. Donc le 13e mois, qui est le deuxième mois de Purim, de Hadar, il n'a pas de Mazal. Comme s'il est en dehors du Mazal. Amalek n'a pas de pouvoir sur eux. C'est aussi la raison pour laquelle Yoshua ne peut tuer que les combattants de Amalek, comme nous l'avons dit plus haut. La première lettre du mot Purim ne porte pas de dagesh. Il est lu Furim. La prononciation de cette lettre est légère, raffée, comme affaiblie. Elle renvoie à la guerre contre Amalek, qui se déroula en un lieu qui est appelé Réphidim. Ce nom n'est pas celui d'un lieu géographique, mais il est celui d'un état d'esprit, celui qu'Israël adopte avant que ne surgisse Amalek. C'est le laisser aller dans l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot. C'est l'affaiblissement dans l'application. Il traduit aussi le manque de ferveur et d'entrain. Le jour de Furim, nous ne devons surtout pas oublier cela. Nos ennemis ne puisent leur puissance que de notre affaiblissement. Il n'y a point d'autre raison aux attaques que notre peuple a subies tout au long de son histoire. On aurait pu certainement appeler ces jours autrement. On aurait pu appeler Simha, Sasson, Nissim, Maasé Nissim, etc. Prodige. Alors pourquoi avoir choisi le nom de Furim? Eh bien, il semble évident que la Providence, en fixant ce nom, car c'est la Providence qui a fixé ce nom à cette fête, a voulu nous enseigner la grandeur du miracle qui s'est produit. Le renversement total de la situation, nous sommes passés d'un état de désespoir absolu à celui de la victoire parfaite. Tout cela réside uniquement dans notre propre attitude. Notre relâchement donne le pouvoir à l'ennemi. Et dès que nous nous ressaisissons, nous reprenons le dessus. Le salut est pratiquement immédiat. Tout cela, nous devons le lire dans le nom de cette fête. Aman choisit le 13 du mois de Hadar comme étant le jour le plus propice à la réussite de ses plans. Quelle intention secrète est enfouie dans le choix de ce jour? L'intention qui doit accompagner chacune de nos mitzvot est celle de relever la shrina afin de la relier au nom. Yod Ke Vav Ke. La shrina est symbolisée par la dernière lettre du nom, le He, qu'il faut rattacher au Vav, qui symbolise le Saint béni soit-il. Les deux premières lettres, Yod, Ke, ne sont toujours en liaison, car si elles se détachaient, le monde disparaîtrait. C'est d'ailleurs à ce niveau, au niveau du Vav E, que vient s'infiltrer Amalek, pour faire écran entre le E et le Vav. La lettre Vav, dont la valeur numérique est 6, renvoie aux 6 composants du Talmud, la Torah orale. La valeur numérique de la lettre E, 5, fait référence aux 5 livres de la Torah écrite. Il est indispensable que l'union parfaite règne entre les deux facettes de la Torah, les deux composants de la Torah. Comme nous l'avons déjà souligné lors du don de la Torah, Israël n'accepte pas la Torah orale. Il accepte par obligation et non par amour et ferveur. De sorte que la lettre Vav n'est pas dans sa plénitude. Quand on prononce le Vav, on le développe. Alors le Vav va être écrit, Vav, allez Vav. Et là, la valeur numérique passe de 6 à 13. De sorte que le 13e jour du mois fait référence à ce Vav, qui est altéré par le manque de ferveur et de passion, qu'il est absolument nécessaire d'investir dans l'étude de la Torah orale. C'est alors qu'Aman se sent fort de la faiblesse d'Israël. Le développement de la lettre est appelé Milouï, valeur numérique 86. C'est ce qui fait référence au jugement Elohim. Pour réparer cet état de choses, on remarque que la Megillah est appelé une fois Sefer, un livre, et une autre fois Igeret, missive. Donc il y a une fois un masculin, une fois un féminin. Sefer est au masculin et Igeret est au féminin. Là aussi, c'est le rétablissement du He et du Vav. C'est ça la référence de ces deux noms. Il est à noter que le Vav, en général, fait allusion à la Torah écrite, alors que le He renvoie à la Torah orale. Cependant, chacune des deux facettes de la Torah contient l'autre. Elles sont totalement indissociables. Le manque à la Torah orale est un manque à la Torah écrite. Ainsi, le chiffre 13 fait allusion à cette union. Le mot unicité, Ehad, a valeur numérique de 13, tout comme le mot Ava, 13, de telle sorte que le retournement des événements survient par l'union du peuple entre eux et l'expression de son amour pour Hachem et sa Torah. Le jour du 13 Adar devient alors celui d'un miracle prodigieux. Les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux et pour tous leurs descendants et tous ceux qui se relieraient à eux l'obligation immuable de fêter ces deux jours-là. Nous dit le Pirouche, le mot accepté est cité deux fois. Kiblou, Kibel. Les deux fois, il est écrit au singulier. Mais la première fois, on le lit au singulier. La deuxième fois, on le dit au pluriel. Il est écrit au singulier et on le lit au pluriel. Il s'agit en fait de l'acceptation de la Torah orale. Tous comme un seul homme proclament à l'unisson leur engagement sincère à étudier la Torah et à appliquer comme celui qu'ils ont formulé lors du don de la Torah. Avec un seul cœur et avec comme un seul homme. Cet engagement est total, sans aucune réserve. Cependant, l'application des misoot n'est pas toujours effective par tous. En effet, certaines misoot ne sont applicables que par une catégorie de personnes, comme par exemple celle qui concerne les Kohanim. L'emploi du pluriel fait allusion à cela. Ce n'est que dans la majorité des cas où il est donné à tous, sans exception, de pratiquer les misoot. Ces jours de Purim ne disparaîtront jamais du milieu des Juifs et leur souvenir ne s'effacera pas du milieu de leurs descendants. Que signifie cette répétition? Pourquoi faire une distinction entre les Juifs et leurs descendants? Nos maîtres apprennent de ce verset que la Megillah est écrite par inspiration divine. Rav Yosef le déduit du début de ce verset. Ces jours de Purim ne disparaîtront jamais du milieu des Juifs. Comment le sait-il? Donc c'est une inspiration divine, c'est une promesse, c'est une certitude. Alors que Rav Nachman ben Yitzhak l'apprend de la fin. Leur souvenir ne s'effacera pas du milieu de leurs descendants. Il s'agit des deux facettes de la fête de Purim. D'une part, la lecture de la Megillah et d'autre part, l'application des misoot particulières à ce jour, comme il est mentionné plus haut. Tous, pour que ces jours ne puissent jamais s'effacer du milieu des Juifs, il est nécessaire d'étudier cette Megillah dans le détail, dans la profondeur, d'en faire jaillir l'esprit prophétique. Cette certitude est possible par le renouveau de l'alliance et de l'engagement d'Israël à s'adonner à la Torah orale. Cet engagement est reconnu chaque année lors de la fête de Purim, qui prend alors une dimension éternelle. Les misvot de ce jour sont de tout temps appliquées avec joie et ferveur, ce qui est en soi une garantie que le souvenir de ces jours se restera éternellement. De sorte que toutes les misvot que nous appliquons avec ferveur, enthousiasme, passion, amour, etc., alors elles sont définitives. S'il y a des misvot que l'on oublie, c'est parce qu'on les fait de manière machinale, en grognant, en faisant comme ça, derech agav, sans amour, sans joie. Et là, la garantie, c'est parce que nous appliquons les misvot. C'est pas parce que nous appliquons les misvot, c'est la manière avec laquelle nous appliquons les misvot. De sorte qu'il est mentionné ici deux périodes. Celle qui va jusqu'à la venue du Mashiach, au début du verset. C'est ça le début du verset. Ces jours de Purim ne seront jamais des Juifs. C'est de l'époque de Purim jusqu'à la venue du Mashiach. Et en plus, la deuxième période, celle qui va après la venue du Mashiach. À la venue du Mashiach, le souvenir de la sortie d'Égypte sera secondaire par rapport à la délivrance finale. C'est pour ça que toutes les fêtes liées à Pessah, on dit qu'elles seront annulées. Pourquoi? Parce qu'elles seront secondaires, accessoires. Elles seront accessoires. Cependant, la fête de Purim n'est pas fixée par rapport à Pessah. Elle est un concept indépendant et bien plus. Voilà qu'Esther a fixé les trois jours de jeûne pendant Pessah. Comme si que Purim avait relégué le Pessah et la sortie d'Égypte pas plus loin, elle a repoussé. Il convient de développer ce point qui est d'importance capitale. Nos maîtres disent que dans une année en bolismique, il y a deux mois de Hadar, 13 mois, il faut fêter Purim le deuxième mois. Pourquoi? Afin de lier, pourquoi pas le premier? Alors il dit afin de lier les délivrances entre elles, de relier la délivrance de Purim à celle de Pessah. Nous remarquons ainsi qu'en fait, l'essentiel du miracle s'est produit à Pessah, ce qui signifie que Purim est en fait le lien, le trait d'union entre la première des délivrances, la toute première, celle de Pessah, sortie d'Égypte, et la toute dernière. Cette fête est enracinée au plus profond de Pessah pour se développer et prendre son autonomie, pour parvenir à la fin des temps et continuer à se perpétrer. Dans le même ordre d'idée, le Zohar dit, dans les Tikkunim, Il qualifie le jour de Kippour comme étant ressemblant à Pourim. Kippourim, Kippourim, Kippourim. Yom HaKippourim, le jour qui ressemble à Pourim. Comme si que Pourim était d'un niveau bien plus supérieur à Kippour. Ce qui est à première vue étonnant. Kippour lui-même sera à la fin des temps un jour de joie et de plaisir comme Pourim. C'est ce que nous dit le Zohar. Le jour de Kippour possède une dimension qui transcende le monde de la matérialité. Il nous permet de nous attacher à la spiritualité totale, de gravir les échelons pour parvenir à un détachement maximal de cette matérialité. Comme nous disons, Shema Israël et Baruch Shem Kevod Maruto, l'envoyé d'avoir comme les anges. Comme nous l'avons dit, il ressemble en cela au concept même de Pourim. Ces deux jours doivent en fait s'unir pour n'en faire qu'un. Kippour étant la moitié du jour totalement consacré à Hachem. Nous avons dit que dans les jours de fête, c'est moitié-moitié. Mais pour Kippour, il n'y a rien, nous ne mangeons pas. Donc il n'y a pas la moitié pour vous, c'est tout est à Hachem. Alors que Pourim vient, c'est là, c'est en vérité Pourim et Kippour ne font qu'un. Ils sont deux jours qui font un. Un, c'est la partie consacrée à Dieu, l'Hachem. Et le Pourim, c'est la partie consacrée à l'Hachem. De sorte que l'autre moitié qui nous est octroyée pour nous, Chetio l'Hachem, Chetio l'Hachem, Chetio l'Hachem. Puis la reine Esther, écrivit, Mordechai et Yehudi, écrivirent à nouveau, usant de toute l'autorité, pour donner force de loi à cette seconde missive, et on expédia les lettres à tous les 127 provinces de l'empire d'Assuérus. La Gemara souligne qu'il convient d'associer les jours de jeûne et les supplications à l'action d'Esther. Il ne faut pas penser que c'est uniquement Esther, par son dévouement et par sa démarche, qui ont changé les choses. Là où la nouvelle du décret d'Aman parvient de suite, tous les Juifs se couvriront du cilice, s'y jeûneront, imploreront la miséricorde. Cela pour réparer en fait le fait de s'être prosterné à la statue de Nabucodonosor. Esther, de son côté, fixe pour les Juifs de Suse 3 jours de jeûne pour réparer leur participation au festin d'Assuérus. Rava enseigne, chacun a l'obligation d'exalter son esprit en buvant le jour de Pourim. Comme il est dit, Haya, Vadam, les Basoumé. Basoumé, ça veut dire parfumé. C'est comme si un parfum, on va humer un parfum exquis et notre âme va s'élever, va se détacher de notre corps et on va être dans un état second. C'est ça le Hayab Adam de boire, s'enivrer. Il ne s'agit pas juste de s'enivrer, c'est de boire de telle sorte que l'esprit s'élève, s'exalte. Et on n'est plus, l'échama n'est plus totalement lié au corps. On perd un peu la réalité et la lucidité. À tel point qu'on ne sache plus faire la différence entre béni Mordechai ou maudit Aman. Cette obligation de boire jusqu'à en perdre la lucidité mérite réflexion. A priori, ce n'est pas le genre d'attitude que recommandait Chachamim. De plus, quel est le sens de cette confusion entre le juste qui mérite la bénédiction et le méchant qui doit être maudit? La Torah est parfois comparée au pain, comme dit le sage. L'échou lahamou belachmi, allez manger de mon pain. Ailleurs, il est dit, vous qui êtes assoiffés, allez étancher votre soif, comme il est dit dans Isaïe. Là aussi, c'est la Torah. Dans le cantique, il est dit, tes caresses sont meilleures que le vin. Kitovim, dode, chamiyain. La Torah écrite est comparée au pain, car elle est l'essentiel du repas. Elle est l'essentiel sans Torah écrite, il n'y a rien. La Torah orale possède deux facettes. D'une part, la halakha fixée de manière claire et limpide, dont tous ont besoin. Ça s'applique à tous, comme l'eau, tout le monde a besoin d'eau. Et il y a une autre partie qui est plus différente, qui est l'étude approfondie de la Torah. Pénétrer au fin fond de l'immensité des profondeurs du savoir, la compréhension parfaite, jusqu'à en atteindre le secret et le mystère qui est enfoui. C'est le vin. D'ailleurs, le bon vin, il ne s'agit que du bon vin. Le bon vin, un grand cru, ne peut être apprécié que par les connaisseurs. Donc, les chidushim profonds ne peuvent être appréciés que par celui qui sait étudier. Le commun des individus du peuple ne peuvent pas véritablement saisir et comprendre et goûter, apprécier la profondeur si on ne met pas les choses à leur portée. L'obligation de boire doit accompagner le repas. Il faut donc manger, allusion à la Torah écrite et à boire du vin, allusion à l'étude approfondie, de sorte qu'il faille boire bien plus que ce que l'on mange, car la Torah orale est bien plus vaste et complexe que l'écriture. Et de plus, Pourim, c'est la Torah orale qui est à la fête, qui est à l'honneur. Ceux qui désirent s'y investir sachent que celui qui veut s'investir dans la Torah doit le faire sans aucune restriction aucune. Il s'agit de s'y abandonner totalement, jusqu'à perdre conscience de la réalité de ce monde. C'est à ce prix que la connaissance nous sera octroyée. Comme nous l'avons dit plus haut, c'est le sens des repas de fête. Nous devons montrer par là combien nous sommes attachés à cette Torah. Il s'agit donc de s'enivrer de cette Torah orale, de sa profondeur, de ses secrets, jusqu'à en perdre notre lucidité. C'est parvenir alors à nous détacher des liens qui nous relient à la réalité physique de ce bas monde. Et là, nous arrivons à la confusion. Nous risquons, sans le vouloir, sans en être conscient, de dire « Béni Aman », alors que c'est le contraire qui doit être. Comme nous l'avons dit, Aman symbolise les forces de la Touma, dans toute leur puissance. Amalek n'est pas totalement détruit, il est juste affaibli. Cette clipa contient en elle une étincelle de sainteté de laquelle elle tire sa vie et son existence. En ce grand jour de Pourim, une étincelle de Kdusha se réveille dans cette Touma. Nous voulons lui octroyer des énergies et aussi nous attacher et en puiser, de puiser d'elle ces énergies. C'est le sens de cette bénédiction dite sans conscience, de sorte que la clipa elle-même ne puisse pas en jouir, uniquement l'étincelle qui en jouira. De sorte qu'en renforçant la Kdusha, nous affaiblissons la puissance d'Amalek, jusqu'à lui retirer toutes ses forces vives. C'est le sens de cet enseignement de l'Omel. Certains des descendants d'Aman ont enseigné la Torah Blébrak, Mible Banav Shel Aman, l'hymne de Torah Blébrak. Quel est celui de Blébrak ? Valeur numérique 364, nous dit le Hida. Fait référence aux forces de la Klipa. En effet, le mot Hasatan possède la même valeur numérique 364. Ce qui signifie que la puissance de la Torah, nous avons réussi à extirper de Haman lui-même les énergies de sainteté, qui eux-mêmes, à leur tour, insufflent et diffusent la Torah pour éliminer les forces du mal et les chasser de la terre d'Israël. C'est le sens de Bnei Brak. Il est à noter que cette ville est celle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva est le Rav de Bnei Brak, qui lui-même descend de converti. De plus, toute la Torah orale qui nous est parvenue, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, et Aliba de Rabbi Akiva. La Mishnah, Rabbi Meir, c'est Aliba de Rabbi Akiva. Le Sifra, Aliba de Rabbi Akiva. Toute la Torah nous parvient de Rabbi Akiva. Nous sommes arrivés au 10e chapitre. Vayasem Amelech, Hajrosh Mas, Ali, Alares, Veyayam. Alors ici, il est à noter que, à la 7e année du règne, Hajrosh a fait allègement d'impôts, il a dispensé les impôts. Et là, juste après la fin du miracle, tout de suite, la nature reprend ses droits. Il a rétabli les impôts. Donc nous avons déjà masse, c'est 100, veillé, c'est 27. Donc ici, il fait allusion aux 27 provinces qui sont dans les îles et aux 100 provinces qui sont dans les continents. Et ici, il est à noter que l'allègement des impôts n'a été fixé que pour permettre le miracle. Comment ? Comme Aman, il est prêt à payer à Hajerosh pour tuer les Juifs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une perte pour les rentrées de l'État, des impôts. Alors Hajerosh dit, c'est pas grave. Maintenant, quand les Juifs ils vont tuer les ennemis, là aussi il y a une perte. Le roi aurait pu dire, à cause de vous, je vais perdre des entrées d'impôts. Mais non, il ne perdra pas les entrées. Pourquoi ? Parce que là, les impôts sont annulés. Donc, il n'était pas nécessaire à Esther ou à Mordechai de demander que c'est pas grave si toi, Assuérus, tu perds des entrées d'impôts parce qu'on va tuer une population de nos ennemis. Et juste après ça, rétablissement des impôts. Donc, on voit bien que cela a été fixé juste pour le temps où Israël pourra se venger de ses ennemis. La Megillah n'est pas une chronique historique qui relate les événements dans leurs moindres détails, mais elle est uniquement le récit du miracle, de sorte que les auteurs, par inspiration prophétique, choisissent de raconter certains des événements, ceux qui sont utiles au dévoilement du miracle. Cependant, ceux qui sont intéressés de connaître les événements d'un point de vue historique, ah, et ça, le passage nous dit, ils peuvent aller consulter les chroniques et les livres d'histoire des rois de Perse. La grandeur de Mordechai, sa position dans l'Empire, n'est mentionnée que dans les chroniques des Perses. Car aux yeux des nations, cet homme est important de par sa fonction, etc. Mais aux yeux de nos sages, son importance ne dépend pas de sa position dans le royaume. Elle dépend uniquement de ses qualités propres, de son dévouement à son peuple et à son investissement dans la Torah. Rashi souligne cependant le fait qu'il a marqué « Ratsoui les rovehav », il était apprécié de la majorité de ses frères. Pourquoi la majorité ? Rashi précise que certains membres du Sanhédrin se sont éloignés de lui parce que Mordechai a choisi des fonctions ministérielles. Donc il s'est affaibli, il a moins étudié la Torah, il s'est éloigné un peu de l'étude. Alors pour cela, certains membres du Sanhédrin se sont éloignés de lui. Donc c'est ça « rovehav ». Toutefois, Mordechai n'utilisera pas sa position et son influence dans les sphères du pouvoir pour son propre bénéfice, uniquement pour le bénéfice de ses frères. Lui-même restera identique à lui-même et ne changera pas d'attitude. Il restera fidèle au principe de la Torah. Akadosh Baruch Hu ne fait pas un miracle extraordinaire comme celui-ci par un individu qui va, à la fin de l'histoire, se devenir un fonctionnaire d'État. Non, il faut que Mordechai soit un tzaddik, comme nous avons dit, Mordechai. Comme il est dit, que c'est un encens extraordinaire, roche des rangs, que Mordechai, Bessamim roche, c'est le mot que je cherchais. Bessamim roche, c'est les encens essentiels, roche. Les plus grands encens. Et Mordechai est de cette qualité, du début à la fin. Et il ne changera pas. C'est ça ce que la Megillah vient nous préciser. La conclusion de la Megillah vient préciser cela. Baruch Adonai Eleolam. Amen ve'amen.